quand même dire que c'est effectivement assez remarquable comme témoignage. J'ai pensé à d'autres cas. Alors juste, j'ai des questions, bon, on pourra les reprendre plus tard, mais est-ce que c'est un problème de financement? Moi, j'ai noté en gros, juste pour résumer, le problème central que je me pose aussi, c'est comment on fait fonctionner ensemble des SHS et une entreprise. Là, j'ai déjà remarqué une chose que je trouve intéressante, vous, ça ne vous choque pas, moi non plus, hein, de dire ben, ce qu'il faut, c'est que ce soit rentable pour l'entreprise. C'est déjà un préalable énorme. Il y a d'autres cas, des sociologues arrivent, ils restent dans la pureté de je ne sais pas quoi, on n'en arrivera à rien. Et donc, mon intuition, j'en ai plein d'autres, mais je vais juste dire celle-là parce qu'elle peut peut-être nous aider à réfléchir après. Qu'est-ce qui fait, je me mets dans l'autre sens, qu'est-ce qui fait qu'on n'adopte pas les sociologues finalement, ou anthropologues, ou psychosociologues, les sciences humaines? Donc tout ça c'est pareil, avec des nuances après, mais pour l'entreprise c'est pareil. Pour nous c'est différent, à cause des commissions 11, 13, 14, 17, 10, etc. Si je dis ça pour rigoler. En fait, vous augmentez la charge mentale de l'entreprise et vous augmentez les coûts de transaction, je dis vous, nous. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas accepté? C'est qu'on fait chier. Je prends un concept scientifique exprès. Si c'est trop compliqué, je peux le traduire. Et on augmente tout d'un coup la charge mentale de l'entreprise qui demande à un sociologue de venir, à une science humaine de venir, pour lui abaisser la charge mentale. Manque de peau. Qu'est-ce qui va nous chercher? Il nous parle de ça. Rien à voir avec tout ça. Deuxièmement, il faudrait commencer à discuter ce que les économistes appellent des coûts de transaction, que j'ai un tout petit peu retransformé, parce qu'un coût de transaction, c'est souvent des externalités négatives, peu importe, mais ça marche très bien en sociologie aussi, en sociologie des organisations, des systèmes d'action. On augmente tout d'un coup tous les coûts de transaction. Au lieu de fluidifier le processus avec derrière une explication du comportement humain qui est très simple, c'est que si on connaît les ressorts des comportements humains, on appuie sur le bouton, et ça doit s'appliquer. Ce sociologue, la psychosociologue, pire encore, c'était notre plus grand allié, il nous enquiquine tout d'un coup à nous parler de je ne sais pas quoi. Donc voilà, donc il faut réfléchir que qu'est-ce qui fait que nous, ça ne marche pas? Est-ce qu'on est bête? Est-ce qu'on dit est faux, etc.? Non, ce n'est pas ça. Je m'applique à moi, et avec tout le monde avec qui je travaille, la même chose que les méthodes que j'ai pour comprendre pourquoi une innovation ne marche pas. Nous sommes une invention. On arrive là-dedans, on rentre dans le processus d'innovation qui est d'introduire une psychosociologue, plutôt intelligente en plus, c'est peut-être ça le problème du reste. Vous seriez plus bête, peut-être que ça marcherait mieux, c'est possible. Hein. Il faut faire toutes les hypothèses. Hein. Mais vous avez fait un truc, alors que ça c'est le troisième point, je trouve très très intéressant. Le premier, c'est la qualité de l'auto-observation. La deuxième, ça fait apparaître ses coûts de transaction et la charge mentale. Mais je trouve qu'il y a un troisième point, moi, qui me fascine tout le temps, et qui vient de la négociation commerciale. Je prends exprès ce mot-là. C'est-à-dire, quand on négocie ce qu'on appelle la demande, on est dans du commercial. On négocie notre contrat, etc. Et vous avez élucidé quels sont, et c'était très intéressant, les schémas cognitifs ou attitudinaux, vous avez élucidé la façon dont vous expliquez les comportements. Et vous partez d'un postulat qui est, si j'explique les comportements humains, moi j'ai le même, hein, moi, je veux dire, si j'explique l'organisation, ça revient au même, tout ça. Si j'explique les comportements humains, eh bien, mon client devrait être content parce que je vais lui montrer non pas une prévision qui n'existe pas, mais quels sont les mécanismes humains sur lesquels il peut s'appuyer pour développer son truc. Eh bien, non. Et pourtant, c'est tout le débat est là. Moi, j'ai augmenté mes capacités épistémologiques. Là, je prends un mot plus simple que tout à l'heure. Donc mes capacités à réfléchir sur comment on connaît en réalité, grâce au fait que je négociais commercialement le thème, etc. Mais sans idée de pureté, etc. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte que le décalage de fond qu'il y avait entre les sciences humaines et les ingénieurs, qui sont nos meilleurs alliés, attention, hein, nos ennemis, c'est les psychosociologues, les ethnologues, anthropologues, sociologues. C'est ça nos concurrents, il ne faut pas travailler avec eux surtout. Hein. Nos alliés, c'est les médecins, les architectes, les ingénieurs qui se font un peu chier dans leur boulot, tout d'un coup, ils ont un petit peu de supplément d'âme, c'est formidable, et nous, on est contents, on apprend plein de trucs. Là, tout ce que vous avez dit au début sur la BBC, c'est très très bien. À chaque fois, moi, j'apprends aussi dans tous les domaines, donc c'est formidable. Mais il y a derrière un implicite que vous avez très très bien élucidé, c'est comment j'explique les comportements humains. Et si vous regardez bien, et je n'ai aucun jugement de valeur là-dedans, le comportement, l'explication implicite, alors je dis ingénieur parce qu'on parle d'ingénieur ici, mais c'est la même pour un médecin, un architecte ou avec tous les gens avec qui on travaille en fait, un ingénieur agronome, j'ai bossé 15 ans à l'école d'agriculture, c'est un schéma d'imposition. Hein, c'est un schéma bouton-pression. C'est un schéma où, en fait, il faut imposer aux gens. Et du reste, c'est assez cohérent. J'ai horreur de ce mot, par ailleurs, je le trouve très drôle. Avec des pratiques qu'on voit très bien ici, on automatise tout. Gaëtan, qui a travaillé là-dessus, connaît bien tout ça. Ou Jean-Philippe Fouquet. Et on croit qu'en automatisant tout, on va régler les problèmes. Et donc, les gens vont automatiquement appliquer tout ça. Puis, manque de peau, ça ne marche pas. On met un sociologue, il dit, voilà pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça marche bien aussi. Avec un truc de méthode que je trouvais formidable. J'ai fait tout à l'heure une dénégation. Hein. Je dis, je vais être bref. Et en fait, on est long. Hein. Quand vous écoutez les gens, je vais être clair, je vais être bref. Pensez à Racine. Au commencement, le monde était chaos, dit l'avocat. Hein. Alors, le juge dit, passez au déluge. Là, c'est pareil. Et vous avez glissé un truc vachement bien. Quand vous avez dit, dans mes questionnaires ou les interviews, je leur ai fait relativiser. C'est hyper intéressant. Tous les sondages donnent toujours que les Français râlent et ne sont pas contents. Et vous, vous trouvez une technique, une fois qu'on connaît aussi dans les sondages, on leur fait parler d'eux et comparer, ils ne sont pas si mécontents que ça. Donc déjà, ça permet de relativiser, de présenter mieux le résultat. Voilà ce que je voulais dire. Et le point intéressant, c'est l'élucidation qu'il faut que nous, on fasse. Moi, par exemple, j'élucide, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les contraintes. Si je n'ai pas les contraintes, je ne comprends rien. Ah, on me dit que vous êtes pessimiste. Pourquoi pas? C'est faux en plus de ça, mais peu importe. Quand vous parlez de contraintes, on vous dit que vous êtes pessimiste. Vous montrez la réalité. Horreur! On ne vous demande pas la réalité. Alors que le discours explicite, c'est on veut voir du réel, on veut changer, on veut coproduire, on veut génoter, enfin, on veut connaître l'usager, on veut être centré usager. Pensez au marketing, qui ne pense qu'à l'usager. Et comme un con, là aussi, vous lui montrez un vrai usager sur un film, dans sa salle de bain, son living. Ah, il dit, c'est horrible. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, comprenons bien un truc très intéressant. On a une demande de réalité. Bêtement, on monte la réalité. Et là, c'est l'horreur. Et c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Donc, c'est très intéressant. Je rigole du client. Jamais en affaire. Hein. Mais... Parce que c'est parce qu'on est différents, hein. Mais comprenons bien que, en réalité, on n'a pas en tout cas envie de voir la réalité présentée par les sciences humaines. Parce qu'elle est ambivalente, justement, avec du positif et du négatif. C'est ça la réalité. Ce qui est la leçon que j'en ai tirée aujourd'hui, c'est qu'il faut dire aux gens, voilà, on va vous montrer 5 minutes, 10 minutes de la réalité, après vous faites ce que vous voulez. Mais juste pendant 5-10 minutes, une demi-heure, une heure, deux jours, j'ai fait 3 jours une fois. Bon, maximum. Là, on regarde la réalité, et pendant les 3 jours, au bout des 3 jours, on recrée de l'enchantement. Parce qu'il nous faut de l'enchantement pour agir. Mais il y a, je leur dis, attendez, il y a un moment, on vous montre du réel. Voilà. Là, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans l'enchantement, tout ça, c'est terminé. On n'est plus dans le marketing. On fait de la psychosociologie, et on vous montre du vrai. Après, on va voir comment on peut faire, etc. Et je trouve que tout ce que vous avez décrit, c'est formidable, hein. J'avais juste une question indiscrète. Votre directeur de thèse là-dedans.
Ça, j'en ai pas parlé.
Ben oui, j'ai remarqué.
Le côté de partie, c'est aussi le lien entre le laboratoire, entreprise, parce que dans le cadre d'une CIF, c'est 3 parties. Il y a l'Agence nationale de recherche, le laboratoire de recherche et l'entreprise. Et en fait, il a commencé à avoir des problèmes dès le départ. Ben
oui.
C'est-à-dire que j'ai été recrutée par Elitis au mois de novembre 2011, et j'ai pu commencer seulement en mars 2012, donc ça fait un laps de temps quand même assez long à attendre, parce qu'il fallait établir un contrat de collaboration entre l'université et l'entreprise. Et là, dès le début, je me suis rendu compte que c'était des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et qui avaient des visions totalement caricaturées l'un de l'autre. Dans l'entreprise, ils pensaient que c'était des chercheurs qui servaient à rien et qui étaient en train de réfléchir sur des thèmes, etc. Et au niveau de l'université, ils disaient c'est une entreprise, donc ils ont de l'argent, etc. Ce qui fait qu'en fait, l'université a demandé une somme très importante à l'entreprise, parce que dans le cadre du contrat de collaboration, l'Agence nationale de la recherche ne donne pas d'obligation, mais dit l'entreprise peut donner un financement au laboratoire, puisque le laboratoire va encadrer le TESA.
Quelle somme elle a demandé? C'est quoi une somme très importante?
36 000 euros.
Ah oui, c'est beaucoup.
L'université a demandé.
C'est 5 à 10 000.
L'université a demandé 36 000, là ça a bloqué complètement, et ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais déjà déménagé à Dijon, j'étais prête à commencer mon travail, et là chacun se renvoyait la balle en disant, l'entreprise disait, bah non, dans ces conditions, nous on arrête tout, le laboratoire disait, dans ces conditions, nous on n'encadre plus la thèse. Donc, je me retrouvais avec les deux qui menaçaient l'un l'autre de tout laisser tomber, et moi qui étais au milieu, à devoir faire médiateur, etc., trouver des compromis entre les deux, tout ça sans qu'ils ne se rencontrent jamais. Ce qui fait qu'en fait, mes directeurs de thèse et le PDG d'Elitis ont fait pour la première fois leur première visioconférence il y a 6 mois, donc ça faisait 1 an et demi que j'étais là. Voilà, parce que pourtant il y avait eu des réunions qui étaient programmées, etc., mais à chaque fois l'un ou l'autre ne pouvait pas. Enfin bon, il y avait tout le temps une excuse qui disait qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en fait. Ils se sont d'ailleurs toujours jamais rencontrés, je suis une doctorante. Donc mes directeurs de thèse m'ont toujours soutenu, ont toujours cassé du sucre sur le dos de l'entreprise en disant c'est des méchants, etc. Après, pour m'aider sur le terrain concrètement, bah,